deux questions en fait. La première, peut-être la plus courte, on a parlé tout à l'heure de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris. Est-ce qu'on a une étude pour avoir quelque chose de concret là-dessus? Et la deuxième question, on parle de... Enfin, au niveau de la... je voulais rebondir sur la légitimité, enfin, sur la loi. Qu'est-ce que prévoit la loi? À quel moment prévoit la loi prévoit-elle des consultations ou des enquêtes publiques? C'est en prévoir. Et on parle d'avancer. Enfin, est-ce qu'on sait où, enfin, quel est tout le processus du... Enfin, par exemple, moi, ça ne m'étonne pas qu'on ait demandé l'avis à personne pour un projet. Enfin, si je commence à avoir une idée, je ne vais pas la demander tout de suite à quelqu'un. Mais par contre, à partir de quel moment ça devient obligatoire? À partir de quel moment tout le processus, quoi, mairie, préfecture, enfin, je ne sais pas. Après, moi, du coup, j'y connais rien. Mais justement, est-ce qu'on peut avoir des éléments là-dessus? Et la VIAC, en quoi est-elle la plus avancée? J'espère que c'était assez clair. C'est peut-être beaucoup de questions.
Ça marche. Ça marche. Oui. Sur ce point concernant les impératifs légaux d'information du public. Les choses sont un petit peu compliquées depuis quelques années parce que la loi, ou plutôt le pouvoir législatif, a progressivement supprimé pas mal de choses. Et le seul point sur lequel désormais on peut s'appuyer, c'est, mais ce que je vais dire est sans doute un petit peu imprécis, et d'autres personnes dans la salle peut-être sont en mesure d'être plus précise que moi, c'est l'article 7 d'un texte inexplicablement méconnu qui est la charte de l'environnement qui fait partie de notre bloc constitutionnel qui a été voté en 2004 sous la présidence de Jacques Chirac. Et dans ce texte, charte de l'environnement, il est dit, entre autres, à l'article 7, toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas une loi. C'est la Constitution française qui dit ça. Donc, de ce point de vue, nous avons le droit et même le devoir d'exiger partout la transparence, la communication des informations à partir du moment où elles sont détenues par une administration. Or, ce que l'on constate, c'est qu'il faut se battre pour avoir des informations. Voilà sur ce point. Mais peut-être que des choses plus précises peuvent être dites. Pardon.
Je peux intervenir. Je connais bien la question. Oui. Bonjour. Donc, je suis Daniel Stenbach, le président de la Fédération nationale vente colère. Donc, l'enquête publique est aujourd'hui obligatoire pour un tel projet dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on va vers une enquête publique. Mais dans une première phase, le promoteur doit déposer un dossier d'impact complet qui va être examiné par l'administration. Comme le dit Robert, la loi nous permet de prendre connaissance de ce dossier immédiatement, sur demande, à partir du moment où l'administration l'a en main, elle doit communiquer les informations sur l'environnement. Donc il faut être vigilant et dès qu'on apprend, il faut la réclamer à l'administration. Aujourd'hui, il y a des instructions du ministère pour le faire. Ensuite, donc, l'administration va examiner le dossier. Elle est souvent très rigoureuse. Les dossiers font des allers-retours, des demandes de compléments, etc. Surtout vu la zone, son intérêt écologique, etc. On peut penser qu'il y aura pas mal de bagarres entre les promoteurs et l'administration. avant que le dossier ne soit admis pour une enquête publique. Ensuite, il y aura enquête publique, rapport du commissaire enquêteur. Il doit y avoir aussi préalablement un avis de la mission régionale de l'autorité environnementale qui est soi-disant, enfin qui est plus ou moins une entité indépendante qui est garantie par le droit européen et qui donne souvent des indications intéressantes et des critiques intéressantes. Il doit y avoir encore consultation de la commission départementale nature, paysage et sites. Et avant que le préfet et lui seul décident. Bon, il va demander aussi l'avis des mairies, bon, mais il va s'asseoir dessus ensuite. Bon, mais par contre, c'est le préfet qui va décider, mais il faudra qu'il ait tous ses avis. Donc ça peut prendre encore beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Bien que, théoriquement, la loi impose des délais très stricts à l'administration, mais... très souvent, ils ne sont pas respectés et les promoteurs font pression sur l'administration, mais n'ont pas les moyens d'exiger l'application complète de la loi. Mais enfin, on en a encore pour 9 mois, 1 an avant une décision du préfet. Et on voit mal une enquête publique avant le printemps prochain. Voilà.
Alors je vais juste apporter une réponse concernant les chauves-souris. Alors tout le texte que je vous lire, et je vais vous lire, est entièrement référencé. Je vous ferai grâce des références. L'éolienne est devenue aujourd'hui le principal prédateur mécanique et industriel auquel attribuer la mort de centaines de milliers, voire de millions de chauves-souris dans le monde. Certains rapports scientifiques montrent qu'en Allemagne, ce sont 250 000 chauves-souris qui sont tuées par les éoliennes chaque année. Je vous passe les références là aussi. Ces études montrent que cette mortalité est plus ou moins forte en fonction des lieux et des pays d'implantation des éoliennes. En septembre 2014, le professeur d'université du New Mexico, James Bond, ça ne s'invente pas, biologiste spécialiste des questions écologiques, a publié une étude détaillée à propos de l'impact des éoliennes sur les chauves-souris dans la publication de l'Académie nationale des sciences des États-Unis et qui a eu un important retentissement, y compris en France. Dans son article intitulé « Comportement des chauves-souris dans les éoliennes », le scientifique a mis en avant le rôle désastreux des éoliennes sur la mortalité des chauves-souris. Je cite une partie du rapport. Les chauves-souris meurent en nombre sans précédent dans les éoliennes, mais les causes sont inconnues. Les décès atteignent leur maximum en fin d'été et en automne par vent faible et concernent principalement des espèces qui ont évolué pour se percher dans les arbres. Les chauves-souris sont des mammifères à la vie longue, à faible potentiel de reproduction et qui ont besoin d'un nombre de survivants adultes élevé pour maintenir leur population. Le phénomène récent de mortalité généralisée des chauves-souris dans les éoliennes à grande échelle représente un nouvel aléa susceptible de nuire à des populations entières. On a constaté des décès de chauves-souris dans les éoliennes sur plusieurs continents, avec des estimations hypothétiques des décès dans certaines régions, allant de quelques dizaines à des centaines de milliers de chauves-souris par an.
Moi, c'était une réflexion par rapport aux éléments que vous apportiez sur les coûts. Et il me semble qu'il y a un élément dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les coûts cachés, justement, des éoliennes pour porter au niveau de l'information auprès des propriétaires. Par exemple, des parcelles donc, qu'ils donnent en concession. Parce que justement, cet été a été diffusé le témoignage d'une élue. Alors, je pourrais retrouver les références parce que c'était très intéressant. D'une élue pro-éolienne qui. En Bretagne, hein, Donc, pro-éolienne, qui en fait ensuite a constaté que dans le contrat qui le liait aux investisseurs, aux promoteurs, c'était la collectivité qui assurait ensuite le coût d'évacuation des éoliennes existantes et qui sont devenues caduques. Et ça revenait à des centaines de milliers d'euros qui devaient être supportés par le territoire. Donc ça, il me semble, c'est peut-être une information à porter à la connaissance et à diffuser, parce que même des personnes pro-éoliennes aujourd'hui se rendent compte des coûts induits parce que tout le monde n'est pas sensible aux coûts environnementaux encore. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup, de plus en plus de gens, mais tout le monde n'est pas encore sensible. Par contre, sur ces coûts cachés, ça peut être un argument intéressant.
J'ai trouvé sur Internet le témoignage de Sylvie Alvaès du 3 août dernier, où c'est une agricultrice bio en Auvergne et qui explique très bien sur ce document que j'ai imprimé à 3 ou 4 exemplaires, que je vous laisserai, et que vous pouvez retrouver sur Internet. Sylvie Alvaès, on nous prend vraiment pour des cons. Et vous verrez, on y arrive à retrouver le texte. Et c'est incroyable parce que elle décrit très bien ce que vous dites, mais vraiment, on lui a offert. Alors attendez, je ne sais pas si je peux continuer, parce qu'après je vais m'en aller. La question que je leur ai posée au bout de 20 ans, que se passe-t-il? Une réponse très floue, je résume, hein. On ne sera plus là, car on revend nos implantations à des entreprises étrangères, chinoises notamment. Mais comme la loi nous demande de prévoir le démantèlement de l'éolienne, nous vous provisionnons de 50 000 euros pour vos deux éoliennes. Parce que, bien entendu, au bout de 20 ans, une éolienne, elle est en fin de course, foutue, et il est stipulé de la démonter. Ah bon ? Alors j'ai fait venir plusieurs entreprises spécialisées dans le démantèlement des éoliennes. Résultat, devis pour une éolienne hauteur de 80 mètres, le coût minimum, à chaque fois, chaque entreprise, est de 450 000 euros par éolienne. Et elle dit un peu plus haut, je fais en gros 1 500 euros de revenus en tant que paysanne, et on me donne des sommes mirobolantes. Et moi, je leur ai demandé, ça a commencé comme ça, elle leur a demandé, mais pourquoi vous ne m'achetez pas les terres? Par des prix dérisoires. Enfin, je vous laisserai les documents et je vous laisse la référence que vous pouvez trouver sur Internet. Je répète, je l'ai marqué, on nous prend vraiment pour des cons, les gilets jaunes. Et vous ajoutez Sylvie Alvaès. Je vous laisse les feuilles. Merci à vous.
C'est bon pour
vous? C'est bon. Je ne vais pas tout dire. Parce que...
Bonsoir. Je suis Stéphanie Pradine. Je vais te dire un rôle un peu délicat, mais autant baisser les masques tout de suite, c'est ce que je fais même. Donc moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'espace information énergie de l'Ardèche et aussi au collectif des paysages de l'après-pétrole. Voilà, donc ça fait quand même de longues années que je m'intéresse à ces questions-là. Sur la question spécifique de projet éolien sur le cerf de Gruas, je pense que c'est une aberration. Pourquoi? Parce que en termes démocratiques, c'est une hérésie. Et c'est bien le problème de ce genre de projet, c'est-à-dire que, à mon sens, un projet en énergie renouvelable, c'est un projet qui doit partir du territoire. Or là, c'est très exactement l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on assiste à quelque chose qui est de l'ordre d'une colonisation par des entreprises qui ont de gros pouvoirs financiers, juridiques. Voilà. Donc de ce point de vue-là, on ne va pas discuter et argumenter 15 000 ans. À mon avis, ça doit s'arrêter pour pouvoir prendre le temps de s'approprier les éléments de la transition énergétique et penser localement les choses pour pouvoir construire nous-mêmes ce qu'on a envie de voir venir plus tard. Ce sont des projets qui prennent du temps à penser parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils parlent effectivement du monde dans lequel on a envie d'habiter, que ce soit en termes de diversité, de biodiversité, de culture, de paysage. La question de la technologie, elle s'est posée, elle a été soulevée, elle est hyper pertinente. Voilà, donc effectivement... J'ai relevé plusieurs choses avec lesquelles... Il y a quelques éléments qui ne sont pas tout à fait justes. Clôturer les discussions sur l'éolien, surtout l'ensemble du département de l'Ardèche, parce qu'on produit du nucléaire, de l'hydroélectricité, de l'éolien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à poser. Et à mon avis, elle ne peut pas se poser uniquement à l'échelle du cerf de Gruas. Je pense que là, c'est plutôt à l'échelle d'un territoire plus vaste que ça doit être pensé. Peut-être à l'échelle du département, en tout cas, probablement, en tout cas de manière même plus que probable, de manière certaine, à l'échelle de la communauté d'agglomération, qui s'équipe d'outils de planification énergétique. Donc c'est le moment d'ouvrir les espaces de discussion. Et tout à l'heure, pour finir, je ne vais pas argumenter des heures, je suis disponible, nous pouvons discuter. Il a été cité le maire de Grignan, voilà, qui laissait faire. Et c'est là tout le problème, c'est que c'est laisser faire. Il y a d'autres projets qui existent, qui sont des projets qui sont portés par des citoyens, où les gouvernances sont construites avec les citoyens, avec les collectivités, et où du coup ce sont eux qui recrutent le développeur ou les développeurs éoliens. Et ça, c'est une démarche qui redonne le pouvoir localement. Et ça change tout. Voilà, j'ai terminé.
Oui, bonsoir. D'abord, juste un point. Le mail dont parlait tout à l'heure le monsieur là, de Sylvie, je l'ai reçu et je l'ai envoyé hier au bureau. Donc, vous l'avez, ce mail là, de Sylvie. Donc, je ne sais pas. Avec le lien en plus, oui, d'accord. Donc moi, ma réflexion, c'est dans la transition écologique, il faut faire disparaître, il faut tout ce qui est pétrole, etc., va disparaître. Et l'approche éolien est une approche qui a priori était écologique. Là, la réflexion, c'est qu'effectivement, il y a des façons de voir qui ne le sont pas forcément. Mais j'ai noté tout à l'heure dans ce que vous disiez que dans un projet éolien, on avait la biodiversité au niveau du cerf de Gouyas, on attaquait la biodiversité. Est-ce que ce n'est pas le cas dans tous les projets éoliens qui ont lieu? On attaque toujours la biodiversité. Dans le cerf de Gouyas, il y a une augmentation de l'emprise artificialisation des sols, c'est le cas dans tous les projets éoliens. Durabilité, c'est aussi le cas dans tous les projets éoliens. Protection de la diversité des paysages, évidemment, c'est le cas dans tous les projets. Alors, ma réflexion, c'est de dire, est-ce que vous, au niveau de l'association, votre réflexion, c'est de dire, on se bat uniquement pour pas qu'il y ait des éoliennes sur le cerf des Gruas, ou est-ce que c'est de dire, ni ici, ni ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas au cerf des Gruas, mais il n'y a pas de raison qu'il y en ait ailleurs non plus, donc est-ce que c'est un combat global contre les éoliennes, ou bien est-ce que la troisième possibilité, ce serait de dire, est-ce qu'il n'y a pas possibilité au niveau de l'association de proposer une solution alternative, qui serait une solution qui serait peut-être moins gourmande sur certains points, mais qui permettrait d'avoir une discussion ouverte avec ces multinationales que l'on connaît, qui n'ont pas du tout les mêmes approches que vous avez, que nous avons, mais qui ne fermeraient pas la porte en disant « on est contre, on est contre, on est contre ». Voilà ma réflexion.
J'être dans l'exercice périlleux de répondre à cette question. Je pense que ce qui caractérise notre association, c'est une diversité de points de vue. Il n'y a pas une vision unique du rapport à l'éolien qui nous réunit tous. Par contre, il y a des spécificités de ce projet sur le cerf de Gruas qui fait qu'il y a un consensus entre nous pour dire que ce projet est un mauvais projet. Il peut y avoir, je vais prendre des illustrations, il pourrait y avoir par exemple parmi nous des gens qui seraient pour de l'éolien dans le cadre d'un service public et qui ne se retrouveraient pas parce que c'est un projet qui est réalisé pour le profit des investisseurs. Il pourrait y avoir des gens qui sont hostiles à l'éolien sous toutes ses formes. Il pourrait y avoir des gens qui sont hostiles à ce projet en raison du caractère patrimonial et surtout paysager particulier du cerf de Gruas, qui a un lieu qui a énormément de visibilité. Il va y avoir en fait parmi nous plein de sensibilités différentes, plein de rapports à l'éolien qui sont différents, des gens qui ont très à cœur de réfléchir à comment envisager et porter une transition écologique sur le territoire, des gens qui vont avoir à cœur plus la défense d'un élément patrimonial et de se projeter sur ce projet. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce qui nous réunit tous dans le cadre, c'est comme ça qu'on a construit un consensus en fait entre nos sensibilités différentes, c'est qu'il y a différentes raisons d'être contre ce projet sur le cerf de Gruas. Globalement, parmi nous, il n'y a pas de gens qui pensent que le projet de ces deux sociétés, RES et VSB, sur le cerf de Gruas,
dans ces conditions est une bonne chose. Ça ne préjuge pas du positionnement des uns et des autres par rapport à l'éolien. Donc c'est pas beauté en touche, mais c'est vrai que c'est des sujets complexes, il y a beaucoup de sensibilités différentes. C'est très très difficile de se faire une opinion parce qu'on a d'un côté des gens qui promeuvent l'éolien, qui ont des arguments qui sont parfois vrais, parfois fallacieux. Il y a des gens qui sont contre l'éolien, qui peuvent avoir aussi des arguments qui sont parfois pertinents, parfois fallacieux. C'est très difficile soi-même de discriminer parce qu'on n'a pas forcément les connaissances, on n'a même pas forcément l'objectivité vers soi-même se dire bah « moi, la façon dont je pense cette chose, c'est la bonne, moi, je suis objectif et c'est les autres qui sont orientés ». C'est très complexe. Voilà, donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce qui nous réunit ensemble, c'est le positionnement par rapport à ces projets-là. Et il n'y a pas un positionnement de l'association globalement par rapport à l'éolien. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses, mais probablement que d'autres gens, membres de l'association, vont vouloir intervenir.
Moi, pour compléter, simplement, c'est juste une remarque. Dès qu'on voit une éolienne, on s'imagine que l'électricité se fabrique. Et le problème, il est là. C'est qu'on voit des éoliennes, donc l'électricité se fabrique, c'est faux. Malheureusement, les statistiques européennes, pas françaises, européennes, les éoliennes ne tournent qu'à 25% du temps. C'est-à-dire que sur 100 heures, vous voyez, ou 100 jours, l'éolienne ne fabrique d'électricité que pendant 25 heures. Ça veut dire que ça ne fabrique vraiment pas beaucoup d'électricité. Et l'illusion, elle est là, l'illusion qui est entretenue. Parce qu'on voit beaucoup d'éoliennes, on s'imagine qu'il y a beaucoup d'électricité de fait. Mais il n'y a trois fois rien d'électricité faite avec l'éolienne, avec le vent. Trois fois rien, parce qu'il n'y a pas de vent. Tout simplement, et ce n'est pas simplement parce que vous voyez un petit peu tourner des pales d'éoliennes qu'il y a de l'électricité. Il faut une vitesse. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails, on y viendra peut-être un jour dans une prochaine réunion. Hein. On abordera ce sujet-là. Je crois que il faut prendre conscience de ça. C'est que l'on voit beaucoup d'éoliennes. Mais ce n'est pas parce qu'on voit des éoliennes qu'il y a une production électrique. Il n'y en a pas. Parce que le vent n'est pas là. 25%, ce sont les statistiques européennes sur 20 ans. C'est pas aujourd'hui. Alors une petite remarque qu'on disait concernant l'éolien en Ardèche. On prétend qu'il y a beaucoup de vent en Ardèche. On prétend. C'est pour ça que les promoteurs éoliens s'installent beaucoup en Ardèche. Ils vendent du vent, si je vous dis.
Oui, c'est pas une question, c'est une remarque. Deux remarques. En fait, si nous sommes tous ici, c'est que nous trouvons globalement ce projet peu sympathique. Vous nous avez rappelé un certain nombre de raisons qui peuvent légitimer notre position. Voilà, on n'est pas obligé de partager tous la même raison, c'est pas un problème, effectivement. L'adversité crée de la cohésion, donc tant mieux, profitons-en. La deuxième remarque, c'est que le 7 octobre, il y a effectivement cette inauguration, et vraisemblablement, il va se passer quelque chose. À partir du moment où vont se passer des choses, si nous sommes peu nombreux, non seulement nous n'allons pas nous servir, mais nous allons nous desservir, très clairement. C'est-à-dire que effectivement, l'énergie investie le plus en amont possible de la réalisation du projet est extrêmement importante. S'ils sentent qu'ils avancent facilement face à trois pelés de tondus un peu dispersés, très clairement, ils vont se réjouir. Donc, le 7 octobre, peut-être le point de départ de quelque chose de bien ou de moins bien. Voilà. Du coup, il faut en parler, clairement. Voilà.
Je voudrais intervenir dans le même sens que monsieur, là, qui vient juste de prendre la parole. Moi, j'ai présidé une association qui s'est bagarrée contre un projet d'éolienne à Saint-Vincent-de-Barrès, en Ardèche, et Cruas, juste en face, derrière le massif. on a pour l'instant, après 4 mois de grosses bagarres, obtenu que l'entreprise ne présente pas son projet à l'administration. On a pris les choses au départ. Et je pense que ça peut être une bonne solution. Et monsieur a tout à fait raison, il faut être nombreux, il faut manifester qu'on est nombreux, il faut que ça passe dans la presse, que chaque action, comme ce soir par exemple, vous êtes nombreux, il faut prendre une photo, il faut faire un article, il faut l'envoyer aux 3 journaux principaux du coin. Dauphiné Libéré, Hebdo de l'Ardèche, La Tribune, c'est tout à fait important. Le préfet qui est en dernier ressort prend la décision, n'aime pas du tout quand la population se rebelle sur des sujets, d'autant si elle le fait de façon pas violente, mais avec un impact fort. Beaucoup de monde, bien sûr dans la légalité, parce qu'alors là on a tout faux si on n'est pas dans la légalité, mais il faut que ça se voit, que ça se sache et que ça passe dans la presse.
Pour aller dans ce sens-là, et que vous disiez tout à l'heure là que l'éolien c'est 25% du temps, je voudrais si quelqu'un là ou qu'on l'ait avant le 7 octobre, le rendement énergie pour la construction et la déconstruction d'une éolienne par rapport au kilowatt produit en 20 ans et à quel prix. Voilà, il faudrait que ça soit clair, parce que moi c'est pas clair dans ma tête. Est-ce que d'ici le 7 octobre on peut l'avoir? Voilà.
Oui, je veux bien, je peux pas répondre à cette question. Mais je pense que c'est pas évident qu'on trouve une réponse. C'est toute la complexité du problème. C'est que les énergies sont interdépendantes, c'est un système global. On ne peut pas isoler une production d'énergie des autres. Donc c'est toute la complexité de ce sujet. C'est que c'est difficile de formuler des réponses techniques, rationnelles, précises de ce type-là. Je crois.
Si je veux construire une éolienne maintenant, moi... J'ai un prix.
Oui. Bah, on parle pas de ça. Là, on ne parle pas de votre projet à vous dans votre jardin. On parle d'un réseau d'infrastructures à l'échelle continentale, avec une interdépendance de plein de facteurs. Moi, je ne sais pas si on aura une réponse à votre question. J'espère, mais...
Alors, voilà, c'est que mon opinion, et comme je disais tout à l'heure, on a tous... des points de vue différents. Moi, ce que m'a donné l'impression de mes recherches, c'est qu'on peut trouver des chiffres assez différents. Et selon les modes de calcul, en fait, il peut y avoir plein de paramètres qui sont pris en compte. Par exemple, sur les analyses cycle de vie, qui calculent la production d'une installation par rapport à son coût énergétique, il peut y avoir différents moyens de prendre en compte. Si on part de la mine pour produire l'acier, ou si on part directement de l'acier, si on compte le fait de faire des routes ou pas, principalement sur l'éolien, les coûts d'infrastructure, c'est-à-dire la construction de nouvelles lignes à haute tension pour acheminer l'électricité. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui change radicalement le bilan énergétique, le bilan carbone d'une installation. Donc en fait, c'est des chiffres qui sont assez durs à voir et assez durs à estimer. Par exemple, savoir le coût global qu'aurait, mettons, le doublement du nombre d'éoliennes sur les infrastructures de transport de l'électricité entre les différents pays européens, c'est quelque chose de vraiment très très complexe et peu de gens sont capables de produire des chiffres. Vous avez l'air pas d'accord, ça ne doit pas répondre à votre question.
Alors reformulez votre question.
On ne se pose pas le problème quand on crée une centrale nucléaire pour savoir comment l'acheminer. Elle se fait. Maintenant, on veut arrêter les centrales nucléaires, on veut mettre de l'éolien. Donc, la ligne est faite. Et on n'en parle pas de ça. Vous comprenez ce que je veux dire?
On sait
que quand on fait de l'éolien, Jean Covici vous l'expliquera, Jean-Marc Jancovici, il y en a peut-être qu'il connaît, eh bien, on favorise le gaz, les centrales à gaz du Danemark. Du Danemark. Parce qu'eux, ils sont bien contents qu'on fasse de l'éolien. Et toutes les grosses entreprises, là, les multinationales, sont contents qu'on fasse de l'éolien. Ça fait vendre le gaz des Danois en ce moment. Référence Jancovici.
Oui, je crois. Enfin, il faut expliquer pourquoi ça fait vendre le gaz.
Il faut expliquer. Voilà. Une minute. Pourquoi ça fait vendre le gaz? C'est extrêmement simple. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Quand l'éolien ne tourne pas, en particulier en Allemagne, hein, quand les éoliennes ne tournent pas, Eh bien, il faut l'électricité. Et l'électricité est faite par le gaz et le charbon en Allemagne. Tout simplement. Voilà. Pour les aînés, pardon ?
Et combien il a faut payer l'électricité des
Danois ? Oui, 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 non, mais on connaît ces documents-là. Donc on les connaît. Mais il faut bien comprendre ça, en effet, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que les principaux financeurs de l'éolien sont souvent les grands industriels du gaz et du charbon. C'est étrange, mais c'est comme ça. Parce que dès que l'éolien ne tourne pas, il faut l'électricité pour le pays et on le fait tourner avec ces énergies fossiles-là.
Alors, Brice Barba, moi je suis natif de Flaviac et puis je suis propriétaire à Saint-Cyr, je suis voilà, pas mal engagé dans l'environnement. J'ai deux questions. Enfin, la première, c'est déjà pour la réponse de Flaviac, la commune de Flaviac. C'est est-ce que c'est officiel ou est-ce que c'est des élus qui vous ont répondu comme ça ? Ça, c'est la première question. Et puis j'aimerais bien avoir aussi un retour. Je sais que vous avez rencontré les différentes mairies et un petit peu avoir le retour de ces mairies-là, justement.
Sur Flaviac, c'est complètement officiel. C'est des délibérations qui sont publiées sur leur site internet, quoi.
Je crois que c'était par rapport à la possibilité d'avoir un local pour informer. C'était pas. Alors, c'est pas pas officiel au sens où on n'a pas fait une demande écrite auquel on a une réponse. On a eu une réponse écrite. Donc informel au sens où on était trois représentants de l'association en présence de 8 membres, je dirais, du conseil municipal qui étaient unanimes sur le fait que, enfin, ceux qui se sont exprimés ont dit non, mais c'est hors de question, on ne peut pas faire ça, dont le maire, mais par contre, il n'y a pas eu un échange de courrier officiel.
Donc voilà, et puis je voudrais juste dire par rapport à ça, avant d'attendre la réponse des autres mairies que vous avez rencontrées, mais qu'il n'y a pas que l'aspect, enfin on n'est pas obligé de passer par un lieu public aussi pour se réunir à Flaviac, donc ça aussi on peut le voir, et puis on peut faire marcher les réseaux, notamment les réseaux, voilà, les connaissances, mais aussi le réseau, le net aujourd'hui, qu'on ne peut pas négliger, quoi. Mais voilà, moi je vais déjà regarder de mon côté, mais je pense qu'il faut faire une demande officielle à Flaviac, parce qu'ils ne sont pas tous unanimes sur le sujet de l'éolien, malgré les deux positionnements qu'ils ont déjà eu, donc l'ancien conseil municipal et puis le nouveau.
Merci. D'accord, si jamais t'es pas trop pressé, peut-être à la fin de la réunion, on voit comment on peut faire ça dans les formes, effectivement, et c'est vrai que c'est important aussi de ne pas considérer les gens comme des ennemis a priori, et que c'est pas une position officielle de la mairie. Pour les autres communes, très vite fait, on a rencontré, alors moi j'ai rencontré en tant qu'habitant et propriétaire sur la zone, le maire de Lias, qui m'a dit ne pas être au courant du projet, a dit en gros, si ça fait un peu de sous qui rentre à la commune, pourquoi pas, mais si les gens ne sont pas d'accord, j'ai pas envie de faire ça contre mes administrés. Donc voilà. Le maire de Saint-Fortuna qui nous a dit en substance à peu près la même chose, qui était d'abord aussi très sceptique sur ces projets. C'est la première réaction qu'on a des élus, en tout cas affichée, c'est le scepticisme. C'est quand on monte des documents qui disent « Ah oui, effectivement, c'est plus que des rumeurs, c'est un projet ». Donc le maire de Saint-Fortuna nous a semblé plutôt pas très enthousiaste sur le projet, mais nous a dit aussi que de toute façon, il porterait la parole de ses administrés en tant que maire. En ce qui concerne Saint-Cierge, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire ils observent le truc, il y a des éléments de critique qu'ils ont manifestés de façon assez nette, puisqu'ils ont demandé notamment à participer aux études environnementales, ils voulaient impliquer notamment les ACCA à ces études, faire venir des gens sur le terrain, participer au choix des zones des études, et en fait le promoteur VSB leur a dit, bon, ben non, mais en fait, ça, c'est déjà fait. Donc, voilà, ils nous ont semblé assez critiques vis-à-vis notamment de VSB. Et par contre, toujours, comme tous les élus qu'on a rencontrés, au final, ce qu'ils nous ont dit, c'est, bah, nous, de toute façon, on est à l'écoute de notre population et on se positionnera selon ce que pensent les habitants. Donc, en gros, c'est à peu près les réponses qu'on a eues. On avait un rendez-vous avec Cooks et avec la CAPCA, rendez-vous qui a été annulé un peu au dernier moment. Donc on est en attente de pouvoir les re-rencontrer. Et on a rencontré la première adjointe de Priva, qui travaille aussi au parc et qui semblait qu'il n'y avait plus beaucoup de zones qui étaient propices dans le secteur au développement de l'éolien, que ce n'était pas forcément un atout pour le territoire, qui avait l'air d'être plutôt sceptique sur le projet. Voilà, mais personne ne veut prendre de position officielle et les élus rappellent toujours qu'ils essayeront, eux, de porter la parole de leurs administrés.
Non, rien de particulier. Nous avons rencontré aussi nous avons rencontré des élus de Saint-Vincent-de-Durfort. Même positionnement, c'est-à-dire dans l'attente d'avoir des projets plus précis des promoteurs. Voilà, avec une vraie volonté de collaboration, il nous a semblé, entre une association de citoyens que nous sommes, et pour informer la population, le maximum de concitoyens de la commune.
Oui, puis il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit tout au début, que très clairement, dès mars 2019, et à nouveau, là, au mois de septembre, lorsqu'il a rencontré l'association et lorsqu'il a rencontré aussi le conseil municipal de Saint-Étienne-de-Serre, Hervé Solignac a très clairement dit qu'il s'opposerait à ce projet. Et je n'ai pas lu la totalité de sa lettre, mais dans la lettre que j'ai citée tout à l'heure, il utilise l'expression « je m'opposerai par tous les moyens », qui est quand même une opposition nette.
Et juste pour juste un point d'information en plus, quand on dit donc les deux communes les plus impactées qui attendent de recueillir l'opinion des citoyens, on peut se demander par quels moyens. Et donc Saint-Cierge a lancé une démarche de concertation au moyen d'abord d'un questionnaire qui visait à recueillir l'avis de ceux qui répondaient sur la manière dont ils souhaitaient être informés ensuite de l'avancée des projets. Voilà, ce qui est vachement intéressant et qui à la fois demande l'avis pour comment on souhaite être informé et pas non plus consulté. Donc,
alors, voilà. Juste pour vous dire qu'on va essayer d'arrêter. On avait prévu d'arrêter à 10h15, il commence à se faire un peu tard. À moins, peut-être, si quelqu'un a une dernière question. Moi, il me venait juste quelque chose en tête quand même qui m'a frappé, c'est lors de nos conversations avec Flaviac, nous, ce qu'ils ont dit, c'est on ne peut pas se prononcer sur le projet tant qu'il n'y a pas eu les études. Et ils avaient l'air persuadés, et plusieurs élus ont l'air persuadés, que si finalement ils ne sont pas d'accord pour qu'il y ait un projet sur leur commune, ça ne se fera pas. Et de notre compréhension actuelle du déroulement des projets, en fait, les communes, une fois qu'elles ont autorisé les études environnementales, eh ben, apparemment, leur voix au chapitre, elle est prise à titre consultatif par le préfet qui prend la décision. Donc ça aussi, c'est un truc qui est difficile de faire comprendre aux élus, qu'en fait, ils sont actuellement au seul stade où ils ont un peu la main et qu'après, la décision leur échappe.
Il reste une prise de parole de Juliette à ma droite.